chapitre 10. Vendredi, deuxième jour à arpenter le bitume, à distribuer des tracts, à les glisser sous les portes et dans les boîtes aux lettres d'une partie du marais. Recommencer encore et encore. La veille, Franck en avait déposé une centaine au commissariat d'arrondissement, à 1 kilomètre de là. Le chef de poste les avait rangés dans un coin en promettant d'en parler à ses hommes. Les habitants du 26 bis, présents au moment où Charcot passa pour la seconde fois, ne lui apprirent rien d'essentiel. Femme discrète qui ne faisait jamais de vagues, souvent absente sur de longues périodes, pas de comportement suspect. Il lui arrivait de recevoir du monde, mais personne ne sut affirmer s'il s'agissait d'amis, de proches ou de relations de travail. Elle possédait un vélo de ville bleu ciel, toujours garé dans l'arrière-cour, ainsi qu'une place dans un parking privé à 300 mètres de là, rue Barbette, dont la barrière s'ouvrait avec un badge magnétique. Le jeune inspecteur ne trouva pas de gardien ou de personnel de maintenance, juste un numéro de téléphone à appeler en cas d'urgence. Il nota tout cela dans son carnet. Il se mit à tomber de timides flocons quand il sillonnait les environs. Le quartier lui plaisait, une sorte de village aux rues serrées, décoré aux couleurs de Noël en plein cœur de Paris. Franck interpellait les passants, leur montrait le portrait de Delphine, entrait dans les commerces et discutait avec les employés. Parfois, il laissait quelques tracts. Escrémieux fréquentait une boutique de sous-vêtements de luxe. Elle déjeunait régulièrement, seule, dans un restaurant libanais à l'angle des rues du Roi de Sicile et Ferdinand Duval, à 5 minutes à pied de chez elle. La plupart du temps, elle lisait ou dessinait en mangeant. Elle se procurait du chocolat et du café en grains dans une épicerie fine à 2 pas du restaurant, au moins 3 fois par mois. Dans une librairie dans laquelle elle avait également ses habitudes, Charcot avait acheté la veille les fleurs du mal. En définitive, la jeune femme semblait mener une vie paisible d'artiste et ne manquait pas d'argent, comme l'indiquaient ses achats plutôt haut de gamme. En fin d'après-midi, Franck termina ses investigations par un bar à vin, le No Man, à 200 mètres du 26 bis. Vu les mitraillettes dans les regards, il comprit que l'endroit portait bien son nom et était exclusivement réservé aux femmes. La patronne, une tige blonde à la poitrine plate, identifia Delphine sur la photo. La peintre côtoyait l'établissement le jeudi soir, du moins lorsqu'elle séjournait à Paris. Elle était... Gwyn ? Demanda Charcot. Lesbienne, c'est mieux. Peut-être même bi, mais je ne veux pas m'avancer. En tout cas, les femmes, c'était sûr. Votre avis de recherche, là, vous pensez qu'il lui est arrivé quelque chose de grave ? On ne sait pas. Vous la connaissiez à quel point ? Salutations d'usage, échanges polis. On parlait parfois de la pluie et du beau temps, mais juste 2-3 mots comme ça. Quand l'avez-vous vue pour la dernière fois ? Difficile à dire, 1 mois dans ces eaux-là. Elle venait seule. Le jeudi, c'est soirée célibataire, donc oui, elle venait seule. Et avant que vous me posiez la question, j'ignore complètement si elle repartait accompagnée ou non. Il y a du monde, beaucoup de clientes qui viennent du tout Paris. Ici, elles n'ont pas besoin de se cacher. Ma serveuse en sait certainement davantage, mais elle ne travaille pas avant demain soir, 19h. Franck lui adressa une convocation pour une déposition officielle, ce qui ne l'enchanta guère. Être pénible avec ça, je bosse, moi. Moi aussi. Il sortit et jeta un œil à sa montre. Déjà 18h. Il poursuivrait son porte-à-porte le lendemain. Il avait de nombreux kilomètres dans les talons, pourtant il entreprit de rentrer au 36 à pied. Il n'en était plus à 20 minutes de marche près, et la neige ne le dérangeait pas, au contraire. Elle lui rappelait que les fêtes approchaient, et qu'il serait temps de réfléchir à un cadeau pour sa fiancée. Il regagna rapidement la rive droite de la Seine pour ne pas se perdre, et suivit les quais au-dessus de la voie Georges Pompidou. Il s'interrogeait. Le père de Delphine avait déclaré qu'il ne connaissait pas l'orientation sexuelle de sa fille. Sans doute avait-elle gardé sa différence pour elle, vu ses relations dégradées avec sa famille. Mais depuis quand aimait-elle les femmes ? Une aventure ou un lien affectif l'unissait-il à la victime de Saint-Forget ? Était-elle amante ? Il en était là de ses réflexions lorsqu'il atteignit le 36. Un panneau pavé glissant trônait dans la cour. Le jeune inspecteur grimpa les marches de l'escalier C, 2 à 2, et passa devant le filet anti-suicide Nathalie Ménigon, installée depuis que la militante d'Action Directe avait essayé d'enjamber la rambarde et de sauter dans le vide. Charcot avait entendu dire que certains soirs de peau où l'alcool chauffait les têtes, des flics s'en servaient comme trampoline. 3 hommes et 2 femmes patientaient sur des bancs dans le bocal, une salle du 3e étage à proximité du grand sapin de Noël installé par l'amicale. Parmi eux, les parents escrémieux. D'autres personnes étaient en audition avec le glaive. Les convocations tombaient les unes après les autres, le rouleau compresseur avançait et tous ceux qui, de près comme de loin, avaient côtoyé Delphine, allaient y passer. Franck eut à peine le temps de secouer son blouson que Titi le renvoya sur le terrain. Le commissariat du quatrième venait d'appeler. Delphine Escrémieux avait, semble-t-il, déposé une main courante en novembre. Quand Charcot évoqua l'homosexualité de la jeune femme, son chef ajouta l'information sur le tableau et la souligna, sous les yeux de Florence qui avait l'oreille collée à son téléphone. Après quoi, il reprit donc la route, se disant qu'il aurait pu éviter un aller-retour inutile si on les avait équipés de ces appareils dont on parlait à la télé, les Bebop, des engins révolutionnaires qui, d'après ce qu'on disait, fonctionnaient un peu à la façon de cabines téléphoniques portatives. Fatigué par cette interminable journée, il se présenta à l'accueil du commissariat où il était passé la veille. Un brigadier-chef du nom de Nicolas Courtin l'invita dans son bureau. « J'ai vu son visage sur les tracts dans l'après-midi et ça a fait tilt », expliqua Courtin en ouvrant un classeur. « Toujours pas de nouvelles ?»« Non. Je suis allé récupérer les mains courantes du mois dernier, c'est moi qui avais pris la déposition. Voilà, c'est là, le 12 novembre. » « Le 12. » D'après son calendrier, Delphine avait prévu de partir à Saint-Forger le 15. « De quoi s'agissait-il ? » s'enquit Franck en survolant les feuillets manuscrits et quasi illisibles. « Un drôle de truc. Elle m'a raconté qu'elle était suivie depuis plusieurs semaines. Quand je lui ai demandé si elle avait vu quelqu'un, elle a répondu que c'était juste une impression, du genre une silhouette dans son sillage mais qui disparaissait quand elle se retournait. Voyez le délire. » Charcot resta dubitatif, se contentant de hocher la tête. Ce qu'il a décidé à se pointer ici, c'est qu'elle était persuadée que cette ombre avait pénétré chez elle. Elle prétendait que des objets avaient été déplacés. Prétendait ? Nicolas Courtin parut gêné. Elle habite au troisième, ses fenêtres étaient verrouillées et sa porte d'entrée également. En plus, son immeuble dispose d'un digicode. J'ai envoyé deux hommes qui ont tout inspecté avec soin et n'ont relevé aucune trace d'effraction. Rien n'avait été volé, personne n'avait rien vu, rien entendu. D'où la main courante au lieu de la plainte. Vous ne vouliez pas vous embarrasser d'une procédure judiciaire, j'imagine. Cette femme avait l'air un peu lunaire, se justifia son interlocuteur. Et puis on n'avait rien. Qu'est-ce que vous auriez voulu qu'on fasse ? On lui a dit de revenir si ça se reproduisait. Je crains qu'elle ne revienne jamais, malheureusement. Courtin baissa le regard, impressionné par les deux pierres froides et noires plantées sur lui. Il me faut une copie de ce document, exigea Franck en désignant la main courante qu'il posa sur le bureau. Le brigadier-chef, qui n'en menait pas large, s'exécuta. Cinq minutes plus tard, Charcot retrouvait la ville, la tête farcie d'interrogations. Comment l'assassin avait-il réussi à entrer chez elle sans la moindre effraction ? Et pourquoi ? Pour fouiller ? La surveiller ? Il pensait comme Florence que Delphine Escrémieux n'y était pour rien dans la mort de leur inconnu. L'ombre qu'elle craignait existait bel et bien. Elle s'était immiscée dans la vie de la peintre, invisible, silencieuse, telle une brume. Elle avait sans doute suivi jusqu'à Saint-Forger, où elle avait frappé.